Radio Okapi.
À la présentation du journal, Belinda Bosuma. C'est confirmé. Les consultations annoncées par le chef de l'État démarrent avant samedi et le travail en amont déjà avancé avec certains ténors de la politique congolaise. Information livrée par un proche conseiller de Félix-Antoine Tshisekedi. Journée ville morte transformée en des manifestations spontanées des jeunes à Beni. Les manifestants disent protester contre l'attaque et l'évasion d'un millier de détenus de la prison de Kangbayi et exigent la démission du comité urbain de sécurité. Et puis, l'invité de ce journal, Raymond Ngadi, directeur intérimaire de la région nord de la SNCC, il parle des allégations faites contre son entreprise sur la hausse du prix de maïs sur le marché de Kananga. Il revient également sur les difficultés que rencontre la SNCC. Madame, Messieurs, bonsoir. Les consultations annoncées vendredi dernier par le chef de l'État démarrent effectivement cette semaine. L'information est donnée à Radio Okapi par un proche conseiller de Félix-Antoine Tshisekedi sous couvert d'anonymat. Pendant ce temps, on apprend que les travaux préparatoires à la tenue de ces discussions se poursuivent à l'interne. N'est-ce pas, Jacques-Yves Molima?
Tout à fait. En tout cas, d'après notre source, les premières consultations devront démarrer avant ce samedi. Et c'est le chef de l'État, sauf changement de dernière minute ou un empêchement de sa part, qui conduira personnellement ces consultations. Félix-Antoine Tshisekedi avait promis dans son adresse à la Nation vendredi 23 octobre dernier qu'il prendra langue avec le leader politique représentatif. Il s'agira pour lui d'obtenir une union sacrée de la nation, selon ses propres termes, tout en restant dans les cadres des institutions et dans l'objectif de la mise en œuvre de sa vision à la tête du pays. Toutefois, d'après certaines indiscrétions, le travail en amont avait déjà été amorcé. Des pourparlers seraient même avancés avec certains ténors de la politique congolaise, quelques formalités d'usage resteraient à parfaire. Il est donc clair que ce qui comptera le plus dans ces consultations pour atteindre l'objectif visé, c'est le poids politique de chacun au sein du Parlement.
Notez que le président Félix-Antoine Tshisekedi est rentré à Kinshasa hier soir après avoir assisté aux festivités du 80e anniversaire du manifeste de Brazzaville. Il a mis à profit ce séjour pour discuter des questions bilatérales et de la politique interne avec son homologue Denis Sassou Nguesso. Entre-temps, la patronne de la MONUSCO, Leïla Zerougui, rentre ce soir après 2 semaines d'absence. Elle va certainement reprendre sa mission des bons offices avec toutes les forces politiques et sociales en vue d'aller vers une évolution positive de la situation politique actuelle. Déclaration de David Gressly, le numéro 2 de la MONUSCO, y répondait à une question au cours de la conférence des presse des Nations Unies ce mercredi à Kinshasa. Le représentant spécial adjoint intervenait en visioconférence à partir de Goma. Un extrait des propos de David Gressly, sélectionné par Honoré Missenga Kalala.
Comme on le dit souvent depuis des années ici, notre représentant spécial, qui sera en fait de retour ce soir, va continuer ses efforts de bons offices, de rester en contact avec toutes les couches politiques, travailler ensemble avec tout le monde, tous les partis politiques, la société civile, pour aider de trouver des solutions qui va permettre une évolution positive au pays. Déjà, nous avons noté plusieurs avancées, et ça c'est déjà bien. Le fait qu'il y a parfois des tensions, ça existe un peu partout dans d'autres pays aussi. Mais on va continuer notre travail de bons offices. Donc on va continuer. Je sais que le représentant elle-même, elle était très active jusqu'à son départ il y a 2 semaines. Elle va continuer son travail de bons offices.
Et concernant la stabilisation et la sécurisation de Beni et de toute la partie est de la RDC, David Gressly a indiqué que l'on devrait intégrer dans toutes les stratégies des solutions, des projets économiques et de développement afin notamment d'offrir des perspectives d'emploi aux jeunes qui, par manque d'alternatives, se laissent entraîner dans les aventures des groupes armés. Et dans l'affaire Minembwe impliquant Azarias Rouberoua, suite et fin de l'interpellation à l'Assemblée nationale du ministre de la Décentralisation, Azarias Rouberoua a dit n'avoir pas été impliqué dans l'existence de cette commune dont l'origine remonte à plusieurs années. Répondant hier aux questions des députés, le ministre d'État a expliqué qu'il s'est retrouvé à Minembwe dans le sud Kivu par ordre de mission issu du Conseil des ministres et par demande de son collègue de la Défense. Dans sa conclusion, l'initiateur de cette interpellation, le député Muindo Nzangi, a estimé que la mise en place de la commune de Minembwe est basée sur des faux et usage des faux et demande la démission du ministre Rouberoua pour s'être plongé dans un conflit d'intérêts autour de cette affaire, a dit Muindo Nzangi. Michel Kifindangoy nous en dit plus.
Dans sa riposte, le ministre en charge de la décentralisation a expliqué en 7 points sa version des faits sur le dossier Minembwe et plaide pour la reconnaissance des 7 communes. Azarias Rouberoy.
La saisine du Conseil d'État en vue d'annuler le décret ayant créé la commune de Minembwe me paraît précoce et de nature discriminatoire. Pour mettre fin à des suspicions, j'ai pensé proposer un lotissement de terrain dans l'espace de la commune de Minembwe pour permettre aux élus de cette législation d'y ériger des maisons en vue de cimenter davantage la cohésion nationale.
Insatisfait des réponses du ministre, l'auteur de l'interpellation plaide notamment pour sa démission, Moïndo Zangi.
Le ministre d'État Rouberoy, pour son positionnement politique, continue à remuer les couteaux dans la plaie pour qu'on continue à parler de la haine tribale alors que cette haine était en train de disparaître. Recommandation, rapporter et corriger le décret pour des raisons d'insertion frauduleuse de la commune de Minembwe sans avis favorable de l'Assemblée provinciale conformément à la loi.
En conclusion, la présidente de l'Assemblée nationale, Jeanine Mabunda, envisage mettre en place une commission pour approfondir les différentes recommandations.
Dans l'actualité aussi, l'arrivée hier dans le Sud Kivu du représentant spécial adjoint du secrétaire général de l'ONU et coordonnateur humanitaire David McLachlan Carr. Il doit s'y rendre à Mikenge et Bijombo ainsi qu'à Uvira pour se rendre compte des besoins humanitaires. À Bukavu, il a échangé avec le ministre provincial de la Santé et des Affaires humanitaires, le compte-rendu de Jean-Baptiste Ntonga.
Les échanges ont porté sur la coordination des actions humanitaires sur les 5 axes humanitaires prioritaires retenus pour la province. Un point de la discussion a concerné la prise en main de toutes ces actions par les autorités congolaises après le départ des structures de l'ONU qui y interviennent. Dans l'après-midi, c'est d'abord avec les acteurs engagés dans la stabilisation sous la coordination du ministre provincial du Plan que David McLachlan Carr s'est entretenu et a échangé sur différents aspects de la stabilisation de la province du Sud Kivu. À cette occasion, a été présenté le fonds de cohérence du Sud Kivu qui s'inscrit dans la stratégie provinciale de stabilisation. Le gouverneur Teongwa Bijekasi a ensuite reçu David McLachlan Carr dans son cabinet de la botte où des discussions ont été approfondies autour de l'action humanitaire dans la province du Sud Kivu. Jean-Baptiste Ntonga, Bukavu, Radio Okapi.
Direction le Nord Kivu, paralysie des activités socio-économiques depuis ce matin dans la ville de Beni. Cela fait suite à l'appel à une journée ville morte par le groupe de pression La Véranda Mtsanga, journée transformée en des manifestations spontanées des jeunes qui ont érigé des barricades sur plusieurs avenues et rues de certains quartiers. Les manifestants disent protester contre l'attaque et l'évasion d'un millier des détenus de la prison de Kangbaï à Beni et ils exigent la démission du comité urbain de sécurité. Martial Papi Mukeba.
Tôt ce matin, des groupes de jeunes ont érigé des barricades sur plusieurs avenues et rues de certains quartiers de la commune de Mulekera, considérés comme bastions de La Véranda Mtsanga. Ce groupe de pression a appelé à une série de journées ville morte à partir de ce mercredi pour protester contre l'attaque et l'évasion des milliers de détenus de la prison centrale de Kangwaï et exiger ainsi la démission du comité urbain de sécurité. Plusieurs écoliers et élèves qui se rendaient à l'école ont été contrés par ces jeunes de rebrousser chemin. Au centre-ville, dans certaines écoles, des salles de classe ont reçu des projectiles pour empêcher les élèves de travailler. Les tenanciers de quelques boutiques et magasins qui tentaient d'ouvrir leur commerce ont également été forcés de fermer les portes. Une attitude dénoncée par certains parce que cela a paralysé les activités socio-économiques depuis ce matin dans la ville. Signalons que la police a été déployée dans plusieurs endroits de la ville où elle disperse les manifestants et lève les barricades. Beni, Martial Papi Mukeba, Radio Okapi.
Entre-temps, Congo de l'Est à l'Ouest, c'est la campagne lancée par le mouvement citoyen Conscience Nationale en Action, CNA, ce mercredi à Kinshasa. Objectif de cette campagne, sensibiliser les dirigeants congolais et toute la population dans l'ensemble sur la guerre et troubles dans l'Est du pays, ainsi que d'autres coins de la RDC. La Conscience Nationale en Action a félicité et encouragé toute la population congolaise pour la solidarité et la mobilisation sur ce qui s'est passé à Minembwe dans le Sud Kivu. Serge Gancho, président de ce mouvement citoyen, donne ici le sens de cette campagne au micro de Kanish Mukongo.
Ça fait plus de 20 ans que l'Est est en ébullition. Nous avons enregistré des millions de morts même. Et pendant ces 20 ans, Les politiciens qui se sont succédés depuis Mobutu jusqu'à Tshisekedi, en passant par Kabila père et Kabila fils, ils ont fait de leur mieux, nous pensons, pour trouver une solution, mais le mal ne fait qu'avancer. Notre idée, c'est de dire que les citoyens ne peuvent pas laisser ce problème être géré par les politiciens. Nous devons nous engager pour faire entendre notre voix et chercher des solutions idoines, des solutions citoyennes. Vous avez pu constater que chaque fois que ce problème de l'Est a connu un recul, c'était parce que les citoyens s'étaient mobilisés en mettant de côté les politiciens. Et tout dernièrement, avec ce qui s'est passé à Minembwe, on ne savait même pas qui était de FCC, qui était de Cash, qui était de Moulouba, qui était Moutetela. Tous les Congolais s'étaient engagés et c'est suite à cela que le chef de l'État a pris une décision, mais qui a montré quand même que le devenir de notre pays ne doit pas dépendre que des politiciens.
Retour au Sud Kivu. Plusieurs écoles de Bukavu ont convenu avec les comités des parents du paiement de la prime de motivation des enseignants de l'école primaire en dépit de la gratuité de l'enseignement prônée par le chef de l'État. Le montant varie d'une école à une autre, entre 30 et 60 dollars à débourser par trimestre. Le directeur de la province éducationnelle Sud Kivu 1 fustige ces arrangements qui vont à l'encontre des dispositions légales, affirme Yoy Bokete. Il promet de sanctionner les chefs d'établissement qui exigeraient le paiement de cette prime. Le directeur de la province éducationnelle Sud Kivu 1 s'est confiée à Cynthia Bachizi.
Il est dit clairement que la prime de motivation des parents est strictement interdite et supprimée. Il n'y a pas de raison à ce que les parents puissent encore accepter de se réunir avec les chefs d'établissement en vue de ressusciter quelque chose qui est déjà enterré depuis longtemps. Au moment où je vous parle, je viens déjà d'exprimer une lettre que j'ai envoyée à monsieur l'inspecteur principal provincial de l'EPST sur Kivu 1, qui doit diligenter des missions sur terrain, des inspecteurs itinérants pour automatiquement enquêter sur ce cas. Et les chefs d'établissement qui vont être attrapés pour ce genre de comportement, ils seront automatiquement suspendus de leurs fonctions. Si maintenant ces parents-là ont des preuves, ils savent qu'ils ont payé des frais, ils ont été dans des réunions, qu'ils passent directement là où je suis au bureau, mon bureau est ouvert et je dois prendre les mesures qui s'imposent par rapport à ça parce que la prime est strictement interdite.
Autre nouvelle, exploitation du gaz méthane du lac Kivu en vue de la production de l'électricité en RDC. Un comité de suivi est mis en place par le ministre des hydrocarbures, Rubens Mikindo. Il l'a annoncé à la presse hier à Kinshasa à l'occasion du lancement des études de faisabilité de ce projet. Rubens Mikindo est au micro de Paul Matendo.
Afin d'évaluer les études de faisabilité et les études d'impact environnemental et social, les comités de suivi tant attendus est finalement mis en place par ma décision. Un agenda de travail sera élaboré par les membres de ces comités en collaboration avec les représentants de la société. Ceci doit inclure une descente sur place à Goma pour palper du doigt les réalités du terrain. S'agissant de la question liée à la fiscalité, elle sera quasiment solutionnée par l'arrêté interministériel Finances Hydrocarbures portant fixation des taux des droits, taxes et redevances à percevoir à l'initiative du ministère des Hydrocarbures, dont le projet sera incessamment soumis au Conseil des ministres. Quant au calcul de la royalty, il fera l'objet des discussions entre les experts du ministère des Hydrocarbures avec ceux de EPPM.
Actualité internationale. Nous sommes en Tanzanie. 29 millions d'électeurs ont été appelés aux urnes aujourd'hui. Il s'agit des élections présidentielles, législatives et locales. Le scrutin s'est déroulé dans un contexte tendu après des violences mardi à Zanzibar, territoire semi-autonome qui a voté un jour en avance. L'opposition accuse la police d'avoir tué une dizaine de personnes qui protestaient contre des tentatives de fraude. Les forces de l'ordre ont démenti avoir abattu qui que ce soit. Covid-19, la France se prépare à des décisions difficiles, allocution du président Macron ce mercredi. En effet, le pays a recensé 523 décès supplémentaires en l'espace de 24 heures, soit 266 de plus que la veille, ont annoncé mardi les autorités sanitaires. Les scénarios évoqués pour le durcissement vont d'un renforcement du couvre-feu en vigueur actuellement pour deux tiers des Français de 21h à 6h à un reconfinement total qui serait moins strict que celui connu par le pays pendant deux mois au printemps. Aux États-Unis, la ville de Philadelphie est marquée une nouvelle fois par des manifestations et violences après la mort d'un homme noir tué lundi saisie par la police. La mairie de Philadelphie a appelé la garde nationale. La Maison Blanche, qui a fait de la montée de la criminalité dans des grandes métropoles souvent gérées par des démocrates, un argument de campagne, s'est dit prête à déployer des ressources fédérales à Philadelphie.
L'invité.
Il s'agit du directeur intérimaire de la région nord de la Société nationale des chemins de fer du Congo, SNCC. Raymond Gadi rejette les allégations faites contre son entreprise sur la hausse du prix de maïs sur le marché de Kananga. Il attribue cette situation aux commerçants véreux qui chaque fois créent la rareté en vue d'augmenter le prix de maïs sur les marchés de la ville. Ce cadre de la SNCC revient également sur les difficultés auxquelles son entreprise est confrontée. Raymond Gadi est avec Blaise Ndongala.
Bonjour, directeur Raymond Gadi.
Oui, bonjour, monsieur le journaliste.
Quelle est la politique que mène la région nord de la SNCC pour la réalisation de sa mission ou de ses missions traditionnelles?
Si c'est pour les transports, les domaines sont variés et différents selon une région. Ici à Kananga, nous recevons les demandes de la clientèle. Nous essayons de traiter ces demandes pour y trouver solution. Solution, ça veut dire quoi? Mettre à la disposition de la clientèle des wagons. Une fois qu'ils ont ces wagons là-bas, ils chargent leurs marchandises. Et dès que c'est terminé, nous allons tracter cette marchandise, qui est le maïs et le manioc, et les ramener ici à Kananga.
En cette période-ci, la SNCC Région Nord dispose-t-elle de combien de wagons?
Bon, le volant de wagons que nous avons pour cette région ici, dans l'immédiat ici, nous avons plus ou moins 270 wagons entre Ilebo, Mweneditu, et ça nous suffit amplement pour faire ce trafic.
Certains opérateurs économiques demandent à la SNCC de revoir à la baisse les prix des locations des wagons. Qu'en dites-vous, directeur?
Ils sont tout simplement de mauvaise foi. Si vous passez au service commercial SNCC, ils vont mettre à votre disposition des avis au public. Dans ces avis au public là-bas, la SNCC définit sa politique tarifaire. Il définit sa politique tarifaire. Et spécialement pour le maïs, vous allez trouver que ce sont les tarifs les plus bas qui ont toujours existé et ce sont ces mêmes tarifs-là et qui n'ont jamais connu de modification. Et autre chose aussi, la SNCC ne peut pas se permettre de modifier un tarif quelconque sans se référer au gouvernement de la République. Donc ce sont des choses qui sont traitées entre la société et le gouvernement à travers les ministères au transport. Donc, de ce côté-là, nous, la SNCC, nous ne faisons pas la spéculation. Il y a des avis au public qui sont mis à la disposition de notre clientèle. Un client sérieux qui désire faire du trafic ou faire des affaires avec la SNCC, il doit d'abord prendre connaissance de toute notre réglementation. Et s'il a pris connaissance de toute cette réglementation-là, il est bien orienté pour effectivement aussi orienter ces opérations.
Alors, quelles sont les différentes difficultés qu'éprouve la SNCC Région Nord?
Bon, les difficultés, vous les connaissez tous. Nous connaissons des déraillements. Souvent, c'est la même population-là qui nous apporte aussi beaucoup de difficultés. Les transports clandestins, vous avez déjà entendu plusieurs fois mort d'hommes sur nos trains. À la suite de certains accidents comme des déraillements et consorts ainsi de suite. C'est ça. Et pour nous-mêmes, la SNCC, nous avons du matériel qui est devenu plus ou moins vétuste, qu'il faut renouveler. Les rails, même, la voie ferrée, il y a un problème d'entretien. Nous devons aussi renouveler notre moyen de traction. Bon, ce sont là quelques difficultés que je peux énumérer.
Alors, quel message pouvez-vous lancer à tous ceux qui désirent faire les trafics sur les réseaux SNCC?
Si c'est pour la population qui veut faire son trafic sur les réseaux SNCC, je demanderai d'abord à cette population d'être un peu plus ou moins structurée, organisée, de connaître nos réglementations et de se comporter comme des véritables citoyens quoi, du pays. C'est tout ce que je peux vous dire.
Directeur Raymond Gadi, nous vous disons merci.
Merci.
Voilà, notre invité, le directeur intérimaire de la région nord de la SNCC, répondait aux questions de Blaise Ndongala Mayanda. Par ici, nous mettons un terme à ce journal, supervisé par Axel Goncho. Coordination de Noëlla Luzi Tukabambi, Alain Goy était à la mise en onde. Merci d'avoir été des nôtres et très bonne suite des programmes sur Radio Capi.